Mais avant de lancer les débats, je voudrais laisser la parole à Philippe Chalmin, qui est professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine. Il va nous dresser un rapide mais complet tableau des enjeux énergétiques dans le monde et surtout en France. Merci à tous et je vous souhaite vraiment une excellente conférence. À tout à l'heure.
Merci et bonjour à tous. Il me revient donc de démarrer cette matinée en essayant, en un temps relativement bref, m'a dit le Président, de vous dresser un petit peu le tableau de la situation énergétique mondiale et de ses perspectives, en tout cas de ce que l'on peut en dire et de ce que l'on peut éventuellement penser à l'avenir. Vous voyez, j'ai mis un titre qui peut vous paraître un peu curieux. Il se trouve que c'est le titre du rapport Cyclope que nous publions tous les ans, qui fait le point sur la situation de l'ensemble des marchés de matières premières et de commodités. Et c'est un titre d'ailleurs qui remonte au début de cette année. Nous l'avons publié au mois de mai, mais en fait le choix du titre remonte au mois de janvier ou de février. Et j'avais repris le titre d'un livre d'Hemingway, Pour qui sonne le glas. Alors, vous voyez qu'on ne voit pas très bien, mais la couverture est un peu sombre, elle n'est pas très gaie. Je dois avouer que pour une fois, je ne me suis pas trop trompé, tant effectivement la situation des marchés a largement empiré sur ces derniers mois. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation qui me fait penser que nous sommes en train, sur l'ensemble des marchés de matières premières, et pas seulement sur l'énergie, nous sommes en train de tourner une page, celle d'un choc qui aura duré grossièrement de 2006 à 2014. Et je vous parle là globalement, ce que vous voyez là, c'est un indicateur, c'est un panier de matières premières. Alors il y a de l'énergie bien entendu, mais il y a aussi des métaux, des produits agricoles, c'est en dollars et en dollars courants. Et on voit bien que nous sortons, en quelque sorte, d'une période de tension très forte sur l'ensemble des marchés, qui grossièrement s'est étalé de 2006 à 2014, qui passera, vous avez rappelé que j'étais professeur d'histoire économique, je pense qu'il passera à l'histoire comme le choc de 2006-2014, un peu identique au choc des années 70. Souvenez-vous d'ailleurs, il me semble, dans les années 70, on était en plein choc pétrolier et que rêvait-on de voitures qui fonctionneraient avec un ou deux litres seulement de consommation au 100. Ensuite, on avait eu les années 70, 80, les années 80, 90, marquées au contraire par la chute des prix mondiaux. Et à ce moment-là, on s'était remis à retrouver de bonnes grosses voitures à forte consommation et à nouveau un choc. Alors, dans cet indicateur, bien entendu, il y a le pétrole, je vais y revenir, très simplement, parce que ce graphique a l'avantage de la longueur de l'histoire. Vous rappelez ces évolutions du prix du pétrole. Vous rappelez notamment le point le plus bas lorsque nous étions fin 98, début 99. Le baril de pétrole ne valait que 10 dollars. Et vous savez, les économistes, c'est comme les météorologues. Leur fonction est bien entendu de se tromper. Je me souviens de la couverture de The Economist, qui est quand même l'hebdomadaire probablement le plus intelligent que l'on puisse lire durant le week-end. The Economist avait fait sa une avec un derrick qui commençait à s'effondrer. Puis il y avait une question oil de 5 dollars barrel. Des gens intelligents, début 99, pouvaient se demander si le pétrole ne tomberait pas à 5 dollars le baril. Dur le début des années 2000-2003, quand je faisais des conférences, je disais, vous savez, le prix du pétrole, oh, il a trouvé son équilibre. Alors quand un économiste vous dit, le pétrole, un produit a trouvé son équilibre, c'est probablement le moment de regarder les déséquilibres à venir. Mais je racontais qu'à l'époque, à 25 dollars le baril, c'était l'équilibre parfait, parce que en dessous de 20, ce serait difficile à soutenir pour les pays producteurs. Au-dessus de 40, vous n'y pensez pas. Jamais l'économie mondiale ne supporterait pareil choc. Le 10 juillet 2008, nous étions à 147 dollars le baril. Puis vous connaissez, et je reviendrai sur l'histoire plus récente. Je voudrais simplement d'ailleurs attirer votre attention sur le fait que si j'enlève de mon indicateur le pétrole, eh bien je retrouve un petit peu la même configuration. Et ça n'est pas négligeable, notamment parce que dans vos voitures, il y a des métaux, il y a de l'acier, il y a des métaux non ferreux, etc. Et nous sommes confrontés aujourd'hui exactement à la même conjoncture, y compris d'ailleurs pour les produits alimentaires. Alors, revenons quand même sur le pétrole. Alors là, je suis sur des cours en quotidien. Alors, il y a une petite finesse qui est que vous avez sur le marché mondial du pétrole deux marqueurs de référence, donc deux bruts de référence. Le Brent, c'est la courbe bleue. Le WTI, le West Texas Intermediate, c'est la courbe rouge. Vous voyez qu'alors, il y a toujours une petite différence entre l'un et l'autre. Normalement, d'ailleurs, historiquement, le WTI, étant un brut léger, devait coûter un tout petit peu plus cher que le Brent. Vous voyez que la situation s'est inversée et on va essayer d'ailleurs de comprendre pourquoi. Ce qui est frappant, en tout cas, c'est que nous sortons sur 2011-2014 d'une période durant laquelle, de manière très paradoxale, le pétrole a été probablement, de toutes les matières premières, celle qui était de loin la plus stable. Vous voyez, on traitait aux alentours de 110 dollars le baril. On avait même l'impression que l'OPEP avait récupéré le contrôle du marché. Alors, ce n'était pas l'OPEP qui avait récupéré le contrôle du marché, c'était l'Arabie Saoudite qui acceptait de jouer le rôle de producteur de dernier recours et donc d'équilibrer le rapport offre-demande, de tenir compte aussi, bien entendu, des tensions qu'il pouvait y avoir sur le marché mondial. Et puis, il y a ce qui se passe en juillet 2014. Soyons honnêtes, aucun d'entre nous ne l'avait anticipé, ce en quoi c'est assez logique d'un côté, et pourtant il y avait un certain nombre d'éléments dont nous aurions dû tenir compte. Ce qu'on ne pouvait pas anticiper, c'est le changement de pied de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, dans le courant du mois de juillet 2014, décide de changer de politique, de ne plus être le gentil camarade qui réduit la production dès lors qu'il y a un déséquilibre sur le marché. Au contraire, un petit peu comme elle l'avait fait en 1985, ils disent « Ben non, on en a marre d'être les dindons de la farce, nous allons produire pour récupérer des parts de marché ». Ça, c'est une vision un peu économique. Je ne peux pas m'empêcher, sans céder au syndrome de la conspiration, de ne pas penser qu'il y avait aussi des dimensions géopolitiques. Et des dimensions géopolitiques qui avaient probablement quand même la bénédiction, sinon des États-Unis, au moins de la Maison-Blanche, car ce que le pétrole peut être une arme. Alors ça peut être une arme vis-à-vis des consommateurs. C'était l'utilisation de l'arme du pétrole dans les années 70. Mais là, ça a été utilisé l'année dernière et encore aujourd'hui comme une arme vis-à-vis des autres producteurs, les producteurs dépendants. Ceux qui ont été beaucoup plus cigales que fourmis se sont habitués et ont habitué leur train de vie à un coût du pétrole élevé. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, ce que l'on estime être le « fiscal break-even », c'est-à-dire le niveau du prix du pétrole auquel s'équilibre le budget d'un pays producteur, il est à peu près en moyenne pour les pays de l'OPEP aux alentours de 100 dollars le baril. Un pays comme le Venezuela équilibre ses comptes à 160 dollars le baril. Qu'il de vous dire que le Venezuela est très mal. L'Algérie est à 130. La Russie de Poutine, qui n'est au fond qu'un émirat pétrolier, est aux alentours de 110. Et même l'Arabie Saoudite, mais eux, ils ont des poches tellement profondes qu'ils peuvent subir et soutenir ce genre de situation. L'Arabie Saoudite est aux alentours de 90. Donc, en juillet 2014, je ne peux pas m'empêcher de penser que la décision saoudienne, probablement bénie à Washington, bien, elle visait aussi le méchant russe qui était en train de faire des choses pas bien en Crimée, les méchants iraniens pour les Saoudiens, et que, quelque part, cette situation mettait en évidence ce qui est la seule force du royaume saoudien, c'est-à-dire sa mainmise et sa relative indépendance finalement financière, lui permettant de soutenir pendant assez longtemps un prix du pétrole relativement bas. Ça, c'est un argument, et ce changement de pied géopolitique, objectivement, on pouvait difficilement l'anticiper. Par contre, ce que nous aurions dû anticiper, ce sont les raisons économiques. C'est que nous n'avons pas peut-être assez vu la montée impressionnante de la production des pétroles non, ce qu'on appelle les pétroles non conventionnels aux États-Unis, c'est-à-dire les pétroles de schiste. Les États-Unis, on avait l'impression qu'ils avaient depuis longtemps non seulement passé leur pic gaz, mais aussi leur pic oil. Or, à partir de 2006-2007, les États-Unis commencent à inonder leur marché de gaz de schiste, et à partir de 2009-2010, c'est le tour du pétrole de schiste. Aujourd'hui, un État comme le Dakota produit plus de pétrole que n'en produisait sous Kadhafi la Libye. Et les États-Unis, en termes de production de pétrole de schiste, sont grossièrement passés de 0 ou 1 million de barils jour à 5 millions de barils jour aujourd'hui. Donc ça représentait une réduction des importations américaines. Celle-ci a été compensée un petit peu par l'augmentation des besoins d'un certain nombre de pays émergents, et notamment de la Chine, devenue en ce printemps à peu près à égalité le premier importateur mondial, à égalité avec les États-Unis, mais ça n'a pas été suffisant. Et donc on était déjà potentiellement dans une situation d'un marché excédentaire lorsque l'Arabie Saoudite a décidé que le jeu était terminé. Et la position saoudienne aujourd'hui est de pousser, bien entendu, la production. Nous sommes dans une situation excédentaire. Alors, sur un marché qui est excédentaire, le prix baisse. C'est ce que vous voyez là. Nous sommes tombés donc de ce niveau presque de stabilité de 110 dollars. Nous sommes tombés à 80, 60, 70. Nous sommes même arrivés. Alors, il faut regarder plutôt la courbe bleue qui est vraiment le prix de référence international et notamment le prix européen. Nous traînaillons aujourd'hui aux alentours de 50 dollars le baril. On va voir un petit peu ce que cela peut signifier et ce qu'on peut anticiper à l'avenir. Alors, je voudrais simplement attirer votre attention aussi que ça, la situation pétrolière, vous la connaissez. Mais il n'y a pas que le pétrole dans les sources d'énergie. Et le contre-choc que nous vivons aujourd'hui, il n'est pas limité au pétrole, il caractérise l'ensemble des autres sources d'énergie. Alors malheureusement, pour la COP21, il y a ce graphique. Alors il ne vous intéresse pas, parce qu'a priori les voitures ne roulent pas au charbon, même si la superbe voiture qui est là roule à l'électricité. Et qu'aujourd'hui, pour faire de l'électricité, la source d'énergie la moins chère, c'est malheureusement le charbon. Regardez, ça c'est le prix du charbon. Alors vous avez plusieurs courbes en Europe, en Australie, en Afrique du Sud. Donc c'est à peu près les courbes de référence. Vous voyez qu'on était monté en 2008, on était à 200 dollars la tonne. Nous sommes aujourd'hui à un prix qui n'a jamais été aussi bas, à 50 dollars la tonne. Ici, je ramène, je compare les différentes sources d'énergie. C'est le graphique que vous voyez là. Mes graphiques seront disponibles. Hein. D'ailleurs, je pense que vous pourrez les transmettre pour ceux que ça peut intéresser. Alors, on a ramené dans une unité un peu abscon, qui est le million de BTU, le British Thermal Unit. Les Britanniques ont donné à la civilisation le cricket, le rugby et quelques autres choses. Et puis le British Thermal Unit, donc, qui permet de comparer en pouvoir calorique, calorifique, j'imagine, les énergies. Et si vous voulez ramener ça en baril, en dollars équivalent, baril équivalent pétrole, grossièrement, vous multipliez par 6. Qui est intéressant au-delà des niveaux en eux-mêmes, c'est de voir l'équilibre relatif des différentes énergies. L'horrible courbe bleue, c'est celle du bas, c'est le charbon. Et il ne vous étonnera pas que lorsque la vertueuse Allemagne décide d'arrêter le nucléaire, ils relancent leur centrale au charbon, parce que c'est la source d'énergie la moins chère, et c'est d'ailleurs un des enjeux de la COP21, parce que le charbon n'est pas cher. Bien entendu, il pollue beaucoup. Manque de chance, le carbone ne vaut rien. La tonne de CO2, ça doit valoir 5 euros la tonne aujourd'hui. C'est totalement ridicule. Donc, compétitivement, aujourd'hui, si je suis un électricien et que je me fiche du climat, ben, j'ai intérêt à produire de l'électricité à partir de charbon. Alors, l'autre événement important dans le contre-choc, c'est le gaz naturel. Alors, il y a, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a trois courbes du gaz naturel. Il n'y a pas de marché mondial du gaz naturel, parce que le gaz naturel, ça pose un petit problème pour se balader. Si c'est sur des continents, on a des oléoducs, des gazoducs, ça peut passer. Sinon, il faut liquéfier, le transporter sur méthanier, le regazéifier. Donc, il y a trois marchés. Il y a le marché américain. Alors, le marché américain, c'est la courbe noire en bas. C'est parce que c'est les gaz de schiste, donc ils ont un prix du gaz naturel qui est extraordinairement favorable, qui explique d'ailleurs très largement tout le mouvement de réindustrialisation américain basé sur des industries énergétivores qui vont se baser dans la zone, dans le grand croissant fertile du gaz de schiste aux États-Unis, qui va grossièrement de la Pennsylvanie au Texas. Et c'est un avantage comparatif aujourd'hui dont bénéficie l'économie américaine, qui explique peut-être aussi un peu en partie les différences de performance économique entre les États-Unis et l'Europe. Alors en Europe, nous importons notre gaz naturel par des tuyaux de nos amis de Gazprom, de nos amis de Sonatrach. Alors ce sont des formules qui étant relativement indexées sur le prix du pétrole, bien le prix du gaz naturel, vous voyez, c'est la courbe verte, c'est à diminuer. Et puis, il y a la courbe rouge. La courbe rouge, c'est le marché asiatique, c'est le marché du GNL, du gaz naturel liquéfié. Et vous voyez qu'on était monté à des niveaux de prix très très élevés, 16-17 dollars le million de BTU, au moment où, au moment de l'accident de Fukushima, au moment où le Japon a arrêté sa production de nucléaire. Et donc il a bien fallu qu'il importe à la fois du charbon, mais aussi du GNL. Là, vous voyez, l'effondrement de la courbe rouge, et cet effondrement, il n'est absolument pas lié. Il n'y a pas d'indexation sur le prix du pétrole. Il est lié tout simplement à un phénomène que l'on retrouve, c'est-à-dire sur le nombre de matières premières, c'est-à-dire des investissements considérables chez les producteurs, que ce soit au Qatar, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Australie. Un marché qui est devenu largement excédentaire par rapport au développement des capacités d'accueil des usines de regazéification, et le marché s'est totalement effondré pour retrouver presque les niveaux européens. Alors, c'est un élément qu'il faut mettre dans le panorama du contre-choc énergétique que nous vivons aujourd'hui et qui est quand même important parce qu'il remet quand même en avant le gaz naturel comme une énergie qui est de loin la moins polluante bien entendu que le charbon et même que le pétrole, et qui peut être dans cette transition énergétique dont nous rêvons tous, ce passage dont nous rêvons entre l'âge du pétrole et du charbon dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et l'âge rêvé à la fin de ce siècle des énergies non seulement aussi possibles renouvelables et non carbonées, nous n'y sommes pas encore. Eh bien, il me semble que l'énergie de transition, ce sera probablement le gaz naturel, simplement pour des tas de raisons. Nous en avons peut-être, mais vous le savez, nous ne cherchons pas à savoir s'il est exploitable. Et dans les conditions de marché, de toute manière, pourquoi est-ce qu'on ne parle plus des gaz de schiste en France, par exemple? Parce que dans les conditions de marché actuelles, de toute manière, même s'il y avait du gaz de schiste en France, il ne serait pas rentable. Alors, la situation française, quelle est-elle? On a une situation énergétique très particulière par rapport aux autres pays européens. Nous consommons à peu près, alors j'ai arrondi les chiffres, il y a des spécialistes dans la salle qui pourront corriger, nous consommons à peu près 150 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Là-dessus, nous avons un taux d'autosuffisance qui est un peu supérieur à 50%. Il faut tenir compte des importations, des réexportations, etc. Donc c'est un peu plus complexe que ce que je dis là. Là-dessus, bah, nous avons du pétrole que nous importons en totalité, du gaz naturel que nous importons aussi en totalité. Par contre, nous avons une totale autonomie dans notre production d'électricité. C'est l'originalité du cas français. C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon sens, je ne suis pas politiquement très correct, j'en conviens, je ne peux pas exclure l'énergie nucléaire de la scène de la transition énergétique, cette énergie nucléaire ayant quand même un petit avantage, celui d'être totalement décarbonée d'une part, et de nous donner une totale indépendance en termes de production d'électricité. Par contre, par rapport à nos voisins, nous avons moins d'énergie renouvelable, et puis on a un avantage comparatif par rapport à ces vertueux Allemands, nous n'utilisons pas de charbon. Et ça, c'est quand même quelque chose, ou pratiquement pas de charbon, c'est quand même quelque chose de très important. Et il faut se rappeler que l'intensité, je dirais, le terme est mal choisi, mais le taux de carbonation, je ne suis pas très joli, de l'économie française, est inférieur à celui de l'économie allemande. Et ça, on a toujours tendance à l'oublier. Alors évidemment, je mets le nucléaire là-dedans, c'est pas bien, c'est pas politiquement correct, ce n'est certainement pas vert, mais vous aurez compris que je ne suis pas très très verdâtre. Sur le pétrole, qui pour l'instant quand même est largement utilisé par vos petites automobiles, eh bien, nous importons 54 millions de tonnes de pétrole brut, dont je dirais à peu près un peu plus de la moitié vient de l'OPEP, un peu plus de la moitié vient, il y en a de la Russie, etc. Je dirais que les origines du pétrole n'ont pas d'odeur. Nous sommes sur un marché de commodités, d'où que ça vienne, ça n'est pas trop dépendant. Faut bien se rendre compte que sur ces marchés, aujourd'hui, on ne peut plus dire que les producteurs disposent d'une arme du pétrole. Car au contraire, ils sont totalement dépendants. C'est une illustration d'une vieille loi économique qui est celle de la malédiction des matières premières. C'était Giraudoux qui, dans La Folle de Chaillot, fait dire à un de ses personnages « Que fait-on avec du pétrole ? On ne fait que de la misère et du malheur. » Ce n'est pas très politiquement correct ce que je dis là, mais c'était Giraudoux en 1947 dans La Folle de Chaillot. Et c'est malheureusement vrai dans la plupart des pays producteurs. Donc ils sont tout aussi dépendants de leurs exportations que nous le sommes, et encore un peu moins, de nos importations. Par contre, on a une situation un peu particulière, plus en aval, c'est que nous importons aussi beaucoup de produits pétroliers, donc issus du raffinage, avec un certain déséquilibre, puisque l'essentiel de nos importations, c'est du fioul, donc du gazole et du fioul domestique, et nous exportons un petit peu d'essence, ce qui montre bien d'ailleurs la situation de notre parc automobile. J'y reviendrai. Alors, à partir de là, là je suis dans le constat, ben, quelles sont un petit peu les grandes inconnues? Qu'est-ce qui peut essayer de nourrir la réflexion, le débat dans les mois à venir? Et comment peut-on analyser ce qui va suivre sur la scène énergétique mondiale? Bon, les grandes inconnues, la première, c'est la géopolitique du pétrole. Et je dirais avec deux inconnues majeures, me semble-t-il. Un, la permanence de la stratégie saoudienne. Deux, la résilience des pétroles de schiste américains. Et en répondant à ces deux questions, on peut éventuellement élaborer un scénario. Sachant que nous partons aujourd'hui d'une situation dans laquelle le marché mondial du pétrole est excédentaire, production mondiale de pétrole de l'ordre de 96 millions de barils jour. Nous sommes aujourd'hui excédentaires aux alentours de 1,5 à 2 millions de barils jour. Et il faut rajouter à cela, probablement dans un premier temps, 500 000 barils jour d'ici la fin de l'année, dès que l'Iran, l'embargo iranien sera levé, dès que l'Iran pourra revenir sur le marché. Alors ils ont le projet de revenir à leur niveau de production et d'exportation qui était celui d'avant la guerre irako-iranienne, donc il y a presque une vingtaine d'années. Ils mettront beaucoup, beaucoup de temps à y revenir, mais d'un point de vue d'un nationalisme, on sait déjà que un certain nombre de tankers sont pleins au large des ports iraniens pour revendre du pétrole, faire la nique aux Saoudiens dès que l'embargo sera levé. Donc nous avons un potentiel d'une situation excédentaire de l'ordre de 2 à 2,5 millions de barils jour sur la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Et bien entendu, avec une situation pareille, on voit mal les prix se relever et la zone des 50 dollars le baril paraît presque quelque part une sorte de maximum. Pour l'instant, il n'y a aucun signal en provenance de l'Arabie saoudite de quelque changement de politique que ce soit. Au contraire d'ailleurs, les Saoudiens n'hésitent pas à baisser le prix relatif de leur pétrole pour passer en dessous des pétroles de leurs voisins du Golfe pour bien montrer qui est le maître. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que nous puissions espérer quelque... Espérer, faut-il espérer, bien entendu, mais anticiper quelque changement, pour l'instant, de la stratégie saoudienne. Si j'étais saoudien, à la limite, au point où j'en suis, je continuerai ce type de stratégie, puisque mon objectif maintenant, c'est quand même d'arriver à sortir, ou sinon à calmer l'exubérance quelque peu irrationnelle des pétroliers américains. Et donc c'est la deuxième question. À quel niveau de prix faut-il tomber pour que les pétroles de schiste américains voient leur forage diminuer, ça c'est le cas, mais leur production diminuer aussi. On anticipe à l'heure actuelle un tassement pour l'année prochaine de la production américaine. Peut-être pas une réduction, c'est une économie très, très particulière. Le temps d'un forage en pétrole de schiste est un temps court par rapport au temps long des forages classiques. Et donc, a priori, on est quand même tous un petit peu surpris de constater que, avant la crise, on disait coût de production des pétroles de schiste américains, $60. Et puis ça tombe. Bon, aujourd'hui, on dit plutôt 40, 45. Et puis, en réalité, la réalité est probablement plus proche de 30, ce qui explique que certains de mes collègues prévisionnistes n'hésitent pas à parler d'un prix, alors plutôt du WTI, donc avec un différentiel sur le Brent, de $30 le baril sur le deuxième trimestre 2016. Je n'y crois pas vraiment. Et je pense au contraire que nous allons rester pour les mois et